RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et Gaëtan Planet de retour pour un nouveau journal. Après l'altercation à Washington, l'accolade à Londres.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçu beaucoup plus chaleureusement dans la capitale britannique où doit se tenir aujourd'hui un sommet européen consacré à la sécurité et à l'Ukraine. On verra ce qu'en attend Kiev. Nous ne reculerons pas, prévient le Hamas. Pas question pour le mouvement palestinien de ne pas entamer dès aujourd'hui la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Mais ce n'est pas la position d'Israël. Dans ce journal également, reportage à suivre à Gisenyi, ville rwandaise à la frontière avec la RDC, frontière que franchissent chaque jour de nombreux Congolais pour tenter de trouver des distributeurs en état de marche. Alors qu'un mois après la prise de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda, avoir des espèces relève parfois de l'exploit. Et puis la fin du FESPACO hier soir et le sacre du Burkinabé de Dan Ikouyaté, qui remporte l'étalon d'or grâce à son film Katanga ou la danse des scorpions. La nuit prochaine, place aux Oscars.
Deux salles, deux ambiances pour Volodymyr Zelensky.
Ambiance glaciale et même franchement tendue vendredi à la Maison-Blanche lors de sa rencontre avec Donald Trump qui l'avait menacé de mettre fin au soutien américain dans sa guerre contre la Russie. C'était nettement plus cordial et chaleureux même hier à Londres où le président ukrainien est arrivé, accueilli par le premier ministre britannique Keir Starmer, qui l'a au contraire assuré du soutien indéfectible de son pays. De quoi rassurer un peu les Ukrainiens à quelques heures du sommet européen sur la sécurité qui doit justement avoir lieu à Londres. Mais c'est à Kiev que l'on vous retrouve, Emmanuel Chaz, correspondante de RFI sur place. Emmanuel, quelles sont les attentes des Ukrainiens aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, l'altercation entre le président Zelensky et Donald Trump n'a fait que précipiter finalement l'urgence pour les Ukrainiens de voir l'Europe se substituer aux États-Unis en matière de défense continentale. Ils espèrent notamment que les pays qui sont présents aujourd'hui à Londres pourront s'en donner les moyens. Alors il y a des signes positifs qui sont apparus dès lundi et la réunion des dirigeants européens et canadiens à Kiev devant le changement de politique de Washington et même avant cette rencontre désastreuse de la Maison-Blanche. Tous ont compris qu'il faudrait œuvrer à la défense de l'Ukraine et de l'Europe. L'Europe a un rythme bien plus accéléré. Les Ukrainiens et les Européens attendent aujourd'hui de voir concrètement quelles annonces sont possibles côté européen. Alors cela passe de l'aide militaire avec des véhicules, des munitions et de la défense aérienne à d'autres mesures comme l'entraînement de soldats ukrainiens ou encore l'établissement d'une force de maintien de la paix pan-européenne qui pourrait être déployée en Ukraine. Tout cela est cependant à prendre au conditionnel puisque pour l'instant la paix est très loin d'être achevée et que l'Europe doit d'abord se donner les moyens de sa propre défense.
Emmanuel Chaz, correspondante de RFI en Ukraine.
Et la paix en Ukraine, les États-Unis et la Russie ont commencé à en parler, mais seuls de leur côté.
Et dans ce plan de paix, la question épineuse des églises orthodoxes, car la Russie veut imposer une série de 6 conditions, dont le rétablissement de l'église orthodoxe canonique d'Ukraine, qui dépend du patriarcat de Moscou. Ça va à l'encontre de ce que veut Kiev, c'est-à-dire, au contraire, imposer aux églises qui en dépendent encore de rompre leur lien avec le pays ennemi. Un sujet complexe qui sera au menu tout à l'heure de votre magazine Religion du Monde. Véronique Guémard recevra le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, numéro 2 du patriarcat de Constantinople, la mère des églises orthodoxes, et dont le patriarche Bartholomée Ier a octroyé l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance à l'église orthodoxe d'Ukraine, c'était en 2019. Alors pour Emmanuel de Chalcédoine, les conditions russes ne sont tout simplement pas recevables.
L'histoire s'écrit et l'histoire ne s'efface pas. Donc, ce qui est de l'Église légitime, l'Église orthodoxe d'Ukraine, c'est une Église autocéphale qui a été reconnue en 2019. Donc, on ne peut pas l'effacer et on ne peut pas la priver d'existence. C'est l'Église légitime et je pense que en Ukraine, un pays donc indépendant, souverain, il peut y avoir... Et notre désir, c'est de voir tout le monde qui se défend en tant que peuple orthodoxe, d'être dans cette église. On ne peut pas créer de nouvelles sections, disons, d'église. Nous, on opte pour une solution qui peut se trouver avec du dialogue. Mais il faut qu'il y ait un dialogue et pas un monologue.
Des propos recueillis par Véronique Guémard que vous retrouvez dans son intégralité à 10h10 temps universel dans Religion du Monde consacré donc à l'Ukraine. Le Hamas accuse Israël de se soustraire aux accords qu'il a signés, déclaration auprès de l'AFP du dirigeant du mouvement palestinien qui réclame le début dès aujourd'hui, comme prévu, de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, censé aboutir à une fin permanente de la guerre. Sauf qu'Israël s'y refuse, annonçant cette nuit avoir approuvé à la place un plan préparé par les États-Unis et qui prévoirait plutôt une extension de la trêve jusqu'à mi-avril, après le Ramadan et la Pâque juive. Un plan Witkoff, du nom de l'envoyé du président américain, qui permettrait que la moitié des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza soient remis à Israël dès le début de cette trêve, l'autre moitié le dernier jour. D'ici là, un accord pour un cessez-le-feu permanent devait voir le jour. Mais nous ne reculerons pas, prévient le Hamas. Ce n'est pas une immense surprise en soi. On sentait venir le blocage ces dernières semaines. Et face à ce désaccord, Israël annonce ce matin suspendre l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans Gaza. Des blocages auxquels les familles des otages assistent impuissantes. Reportage à Jérusalem de nos envoyés spéciaux, Oriane Verdier et Julien Boileau.
C'est la dernière chance de pouvoir ramener les 24 otages encore vivants et de localiser le corps des 35 autres. Pour porter ce message, le Forum des familles a organisé de nouveaux rassemblements. Naomi est venue exprimer sa solidarité devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem.
Oui, le débat est de savoir comment libérer les otages. Bien sûr, demander leur libération sans rien donner en échange serait l'idéal, mais je ne pense pas que ce soit possible. Donc, il faut payer le prix pour qu'ils soient libérés et on pensera ensuite au futur.
Mais dans la foule, tout le monde ne partage pas la même certitude. Yoni est venu en voisin exprimer sa compassion, mais la solution pour lui n'est pas si évidente.
Je ne peux pas me mettre à la place des familles d'otages. Dans le judaïsme, l'un des concepts les plus importants est de libérer les personnes détenues. C'est très important et on fait beaucoup d'efforts pour ça, mais j'espère qu'on restera responsable. Nous sommes obligés de rester responsables. Nous avons un ennemi très dur et nous devons rester forts.
Il est venu l'heure de se débarrasser définitivement de l'ennemi d'Israël, estime à côté une jeune femme. C'est une mission biblique, selon elle, et la seule manière d'obtenir la paix. Julien Boileau, Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé avoir signé une déclaration pour permettre l'envoi de près de 4 milliards de dollars d'aide à Israël.
RFI 9h07 à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu dans l'est de la RDC.
Ça fait maintenant plus d'un mois que la ville de Goma est occupée par le M23 soutenu par le Rwanda. Un mois que les portes des institutions financières de la ville sont fermées. Alors pour pouvoir avoir un petit peu d'espèces sur soi, ça demande parfois de faire un peu de chemin. Certains habitants vont jusqu'à traverser la frontière vers la ville jumelle de Gisenyi, côté rwandais. Un reportage de Lucie Mouillot.
Sur le parking d'une des banques à Gisenyi, presque toutes les voitures garées sont immatriculées en RDC. Eddie De Paul, habitant de Goma, a traversé la frontière de la Grande Barrière dans la matinée.
La guerre du M23, l'évasion du M23 à Goma, c'est la troisième fois que je viens au Rwanda pour le retrait d'argent. Parce que je dois honorer des factures, la famille doit vivre.
Tous les jours, face au manque de liquidité à Goma, de nombreux habitants se rendent à Gisenyi pour récupérer de l'argent de leur compte bancaire ou depuis les bureaux de Western Union.
Les banques ne sont pas fonctionnelles. Même le distributeur non plus. Hein. Les gens ne savent même plus survivre. C'est la situation économique, mais financière, devenue très très catastrophique. Pour l'instant, on ne voit pas de perspective d'avenir d'amélioration de la situation, parce que rien n'est rassuré.
Accompagné de sa femme, David retire une partie de son salaire depuis Gisenyi. Une opération qui coûte plus cher, mais seule option pour accéder à ses revenus pour le moment.
C'est toujours un peu compliqué avec le taux de retrait, les banques ne sont pas les mêmes et tout, mais on est obligé pour avoir du cash. On retire en francs rwandais et puis on va dans un bureau de change, soit on le change en dollars, soit on le change en francs congolais. C'est compliqué, mais bon, on est obligé, hein, c'est le prix à payer.
À Goma, les institutions bancaires attendent l'aval des autorités monétaires du pays pour ouvrir leurs portes. Lucie Mouillot, de retour de Gisenyi, RF.
En Serbie, Niš, désormais épicentre de la contestation qui dure depuis des mois dans le pays.
Pour protester contre la corruption, Niš, c'est la troisième ville du pays, dans le sud-est serbe. Ces derniers jours, des milliers d'étudiants l'ont rallié, cette ville à pied ou à vélo, organisant des événements dans les petits villages traversés sur le chemin. C'est un reportage de Laurent Rouy.
Si les étudiants ne visent pas nommément le président Vučić, tout le monde lui reproche ses attaques contre la démocratie, comme Stefania, jeune maman à Niš.
La carte du parti est nécessaire partout, à commencer par l'école, l'hôpital. Par exemple, à la maternelle, on a attendu 4 ans une place pour ma fille, simplement parce qu'on n'avait aucun contact avec le parti.
Des Serbes de tout le pays sont présents, Les revendications tournent autour de valeurs démocratiques essentielles. Les étudiants se succèdent à la tribune.
La justice est la base d'une société stable. Nous voulons des tribunaux indépendants, des médias libres, des institutions libres dont le travail est régi par la loi et non par les pressions politiques.
Ces protestations dans les grandes villes de province visent avant tout à montrer à la population mal informée le soutien massif dont bénéficie le mouvement. Angela, étudiante, évoque déjà le prochain rassemblement.
Il n'y a jamais eu autant de monde à Nice. Je pense que tous ces gens iront à Belgrade. Personne ne sait quand tout cela va finir. Mais Belgrade est la capitale et on suppose que le prochain rassemblement aura un impact, qu'il y aura beaucoup de monde.
Le président Vučić fait toujours la sourde oreille aux manifestants. Rien ne dit qu'il changera d'attitude, même au prochain rassemblement. Laurent Rouy, Nice.
Et puis 28 ans que le Burkina Faso n'avait pas remporté l'étalon d'or.
La récompense suprême du FESPACO, le rendez-vous du 7e art du continent africain, ça s'est achevé hier soir. Et c'est le Burkinabé, Dany Kouyaté, qui ramène le trophée à la maison grâce à son film Katanga ou la danse des scorpions, doublé du prix du public, qui était remis pour la première fois.
Et une autre pluie de statuettes à venir la nuit prochaine.
Oui, cette fois aux États-Unis, cérémonie des Oscars. Dans la catégorie du meilleur film, la comédie musicale Emilia Pérez du réalisateur français Jacques Audiard, mais ses chances de l'emporter se sont considérablement réduites après un scandale provoqué par d'anciens tweets racistes et islamophobes de son actrice principale. Et ce n'est pas la seule polémique d'ailleurs, car ce film, qui raconte l'histoire d'un narcotrafiquant devenu une femme, se déroule au Mexique, où il est loin, très loin de faire l'unanimité, notamment dans la communauté LGBT. Correspondance de Marine Lebeg.
Dans une librairie de Mexico City, Amelia Flores, 25 ans, s'installe sur l'une des chaises disposées en cercle. Comme chaque semaine, la table ronde sur la place des personnes transgenres au Mexique est sur le point de commencer. Mais à l'approche de la cérémonie des Oscars, la conversation dérive rapidement sur le film Emilia Pérez.
Il montre sa transition comme si c'était quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais une transition, ce n'est pas seulement une opération, c'est une transition sociale, hormonale. Dans le film, on a l'impression que pour être femme, il suffit juste de se faire opérer. Moi, je suis sous hormones depuis 3 ans et les changements sont déjà énormes. Une opération ne rend pas plus femme.
Une opération ne définit pas si c'est plus femme ou non.
Amelia Flores est catégorique. Le film n'a pas aidé sa communauté déjà peu et mal représentée au Mexique.
En revanche, je me suis rendu compte que ça a attiré l'attention de certains de mes oncles ou de mes proches sur le sujet, qu'il y avait une femme trans dans un film qui va gagner plusieurs Oscars. Donc oui, ça a créé un débat, mais ça a été mal amené et le film romantise trop la violence.
Car il ne faut pas oublier, rappelle Amelia Flores, que le Mexique reste le 2e pays du monde où le plus de personnes transgenres sont assassinées. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
RFI, il est 8h13 à Paris. RFI Matin continue avec vous, Julien Coquelroen.
Merci Gaëtan Plenet, 7h13 en temps universel. Et le prochain journal dans 17 minutes, tout juste. Un nouveau point sur l'info africaine. Mais tout de suite, la revue de presse. Avec vous Catherine Potet, le tour de la presse hebdomadaire et des journaux du dimanche. À la une, la France réplique après l'altercation Trump-Zelensky.
C'est Emmanuel Macron qui mène la contre-attaque tambour battant dans la Tribune dimanche, le Parisien dimanche et le Journal du dimanche auquel il a accordé un entretien. Reprenant une phrase du président, la Tribune dimanche titre « Notre sécurité est en jeu ». Malgré l'humiliation que Donald Trump a fait subir vendredi à Vladimir Zelensky dans le bureau ovale, Emmanuel Macron estime que la destinée manifeste des Américains est d'être du côté des Ukrainiens. Et il ajoute « Nous sommes tous d'accord pour faire la paix, mais il ne peut y avoir de paix juste et durable avec un abandon de l'Ukraine ». Emmanuel Macron appelle au sursaut européen, titre de son côté le Parisien dimanche, alors que le Journal du dimanche précise lui aussi que Macron veut une paix durable et rejette toute capitulation face à l'incertitude américaine. L'Europe cherche la parade, ajoute le Parisien dimanche. Pour Emmanuel Macron, laisser l'Ukraine sans garantie de sécurité, c'est permettre à la Russie, sans zone tampon, de dévorer la Moldavie et de venir aux frontières de la Roumanie. De tout cela, les dirigeants européens disent discuteront aujourd'hui à Londres. Après la gifle de Washington à Zelensky, ajoute la Tribune dimanche, les Européens font face à des défis sécuritaires inouïe, s'ils ne veulent pas disparaître de la scène internationale, ils se doivent de prendre conscience du moment historique que nous traversons.
Face à l'omniprésence de Trump sur la scène internationale, certains croient en tout cas que la France peut tirer son épingle du jeu.
C'est le cas d'Hubert Védrine. Dans Marianne, l'ancien ministre des Affaires étrangères estime que nous sommes une puissance moyenne d'influence mondiale. Ce qui n'est pas rien, dit-il. Il y a 193 pays à l'ONU, dont 180 ne sont pas des puissances. Nous avons des atouts que les autres n'ont pas. Nous avons la bombe, nous siégeons au Conseil de sécurité, nous avons un poids fort en Europe. Alors que faire de tout cela, interroge Hubert Védrine. Il répond, il faut s'appuyer sur notre capacité de dissuasion et miser sur nos capacités industrielles avec la question du réarmement. Mais sur qui la France pourrait-elle s'appuyer? Selon l'ancien ministre, il faut savoir penser au niveau français dans certains cas et au niveau européen dans d'autres.
En cette période mouvementée où Donald Trump est bien souvent à la une des journaux et des hebdos, le Nouvel Obs, lui, fait exception cette semaine.
Oui, le Nouvel Obs qui fait sa une avec un prix Nobel de la paix, l'Iranienne Narges Mohammadi, qui lui a accordé une interview car elle bénéficie actuellement d'une liberté provisoire pour raison de santé. Elle aurait pu se faire discrète, mais non, j'utilise ma libération conditionnelle pour renouer avec mes proches, dit-elle, pour voir un maximum de personnes qui viennent me rendre visite à la maison et pour témoigner sur les prisons iraniennes et la répression du régime, en particulier depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car Narges Mohammadi est une battante, je ressens encore les séquelles de mes années d'incarcération, raconte-t-elle, mais psychologiquement je suis toujours debout, la prison n'a pas réussi à me briser. Le prix est pourtant cher à payer. Narges Mohammadi n'a pas vu ses enfants qui vivent en France depuis 10 ans. Dès l'université, explique-t-elle, je savais que je me battrais pour la liberté en Iran. Ce combat est devenu le fil conducteur de mon existence. C'est celui qui me porte aujourd'hui malgré la séparation avec mes enfants, malgré la prison, malgré la douleur. C'est la conviction profonde qu'il y a, dit-elle, un avenir possible en le fondant sur le respect de la vie humaine.
Enfin, l'Express s'intéresse aux ambitions de François Hollande.
Aux yeux de l'hebdomadaire, l'ancien président, désormais député, est redevenu un acteur central au sein du Parti Socialiste et rééquilibre le rapport de force avec Jean-Luc Mélenchon. Quel est son état d'esprit? Selon l'Express, François Hollande ne rêvait pas de redevenir député, mais il a vite compris que c'est au Palais Bourbon que la politique se faisait désormais. C'est surtout là que le futur de la gauche se prépare, uni ou non. Il est souvent sollicité, consulté, écouté. L'ex-président boit du petit lait, nous dit l'Express, qui se souvient, dit-il, qui se souvient qu'au printemps dernier, en pleine campagne des européennes, l'homme était encore radioactif à gauche. Quant à ses éventuelles ambitions pour l'élection présidentielle de 2027, ses amis notent qu'il n'arrête pas, voit plein de gens, enchaîne les réunions publiques et qu'il est, selon les mots d'un sénateur, le mieux préparé de tous. Petite remarque qui en dit long.
La revue de presse. Merci Catherine Potet, bon dimanche. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, il paraissait jusque-là épargné par les tensions qui agitent leurs partenaires du Nouveau Front Populaire. Les écologistes affichent depuis l'an passé une certaine sérénité et jouent le rôle du point d'équilibre de l'Union de la Gauche, régulièrement déchirée par les conflits entre socialistes et insoumis. Bonjour Aurélien de Vernoy.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Ces derniers jours, toutefois, les crises s'enchaînent et la direction menée par Marine Tondelier vacille.
Avec tout d'abord cette séance de mea culpa médiatique que la patronne des écologistes a dû s'infliger. Cette semaine, Marine Tondelier a exprimé ses regrets sur la manière dont son parti a géré les accusations contre Julien Bayou. La plainte pour harcèlement moral et abus de faiblesse contre l'ancien dirigeant des Verts vient en effet d'être classée sans suite, mais celui-ci a vu sa carrière politique exploser en vol, après notamment que les écologistes aient diligenté une enquête interne contre lui. Il était impossible de bien faire dans ce dossier, a tenté de se défendre Marine Tondelier, trop tard selon son prédécesseur, qui regrette qu'elle ne soit pas capable de reconnaître son innocence. Julien Bayou dénonce aussi l'acharnement contre lui de la députée Sandrine Rousseau. Or, celle-ci devrait garder sa place dans la direction du parti à l'issue du congrès des écologistes prévu fin avril.
Un congrès qui suscite aussi de vives critiques à l'encontre de la direction actuelle.
Notamment en raison des nouveaux statuts votés l'an passé destinés à supprimer la balkanisation habituelle des écologistes, explique l'eurodéputé David Cormand, proche de Marine Tondelier. chandeliers. Désormais, il est plus simple pour la motion la plus importante d'obtenir la majorité absolue, ce qui était quasiment impossible auparavant. Un problème démocratique et une rupture avec l'esprit du parti, clament de leur côté les opposants, qui reconnaissent toutefois se réveiller un peu tard. On va vers une LFisation des écolos, peste un cadre du parti, y voyant la volonté de Marine Tondelier de s'inspirer des méthodes autoritaires de Jean-Luc Mélenchon pour préparer sa propre candidature à la présidentielle.
Sauf qu'elle n'est pas la seule chez les écologistes et que là aussi ça pose problème.
Notamment avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui ne briguera pas un nouveau mandat en 2026 et qui se serait bien vu porte-parole du parti pour gagner en exposition médiatique en vue de 2027. Ce n'est pas le principe du poste de porte-parole, cingle David Cormand. Un observateur avisé de la vie des écologistes préfère lui en rire. Éric Piolle a été bien naïf de croire que son ancienne protégée Marine Tondelier allait lui dérouler le tapis rouge. Maintenant, elle veut être la seule sur la photo. Jalousie, réplique-t-on dans le camp Tondelier, où l'on persifle. Certains n'acceptent simplement pas qu'elle soit plus populaire qu'eux. Bref, bonne ambiance à 2 mois du congrès.
Aurélien de Vernoy du service politique, merci. On l'appelait l'enfant terrible des lettres zimbabwéennes dans Chemin d'écriture ce matin. Le deuxième volet de notre série consacrée à Dambudzo Mareshera et à la redécouverte de sa poésie avec la publication du recueil posthume Cimetière de l'esprit. Les deux traducteurs français du poète, Xavier Garnier et Pierre Leroux, nous racontent la vie et l'œuvre de Mareshera. Entretien signé Tirthankar Chanda.
Bonjour Xavier Garnier.
Bonjour.
Bonjour Pierre Leroux.
Bonjour. Pour Dambudzo Mareshera, tout commence par un trauma originel, survenu à l'âge de 11 ans, lorsqu'il se retrouve confronté au cadavre de son père, mort accidenté. Cette scène traumatique hante toute l'œuvre de Mareshera, écrivez-vous dans votre préface à son recueil de poèmes « Cimetière de l'esprit ». Xavier Garnier.
Oui, c'est vraiment la scène traumatique par excellence. Suite à un accident de camion, il voit le corps de son père non seulement ensanglanté, mais aussi entaillé de partout. On le fait entrer dans cette salle pour qu'il voie son père. Ça a été un véritable trauma pour lui. Donc le caractère visuel de sa poésie, qui est une poésie vraiment de presque de voyeur, il voit la violence. C'est flagrant dans une grande partie de sa poésie.
Mareshera est considéré comme l'enfant terrible de la littérature zimbabwéenne. D'où lui vient cette réputation, Pierre Leroux?
En fait, c'est tout son parcours qui est une suite d'événements invraisemblables. Il affirme avoir été exclu de l'université d'Oxford parce qu'on lui a donné le choix entre rester ou passer un examen médical pour savoir s'il était fou. Il a vécu dans des squats à Thomas Square. Même son retour lui-même au Zimbabwe est un retour rocambolesque. On est en 82, donc le Zimbabwe est indépendant depuis 2 ans. Il y a une scène notamment avec 2 autres grands écrivains zimbabwéens où ils sont en train de discuter. Il vient à peine de les retrouver, il commence déjà à les traiter de vendus parce qu'ils ont des métiers de fonctionnaires. Et on lui dit « Très bien, de quoi toi tu vas vivre maintenant que tu es rentré ?» Et il leur dit « I'm gonna rough it up ». Je vais vivre à la dure. J'ai déjà vécu à la dure, je m'en fiche. Et c'est ce qui met en scène, quelques temps plus tard, avec toujours cette tension entre les malheurs qui peuvent lui arriver et le fait que lui-même se tire parfois une balle dans le pied, lui-même se met en scène en écrivain maudit.
Son recueil de poèmes est organisé en 12 cahiers, mettant en scène les thèmes et les colères du poète. Quels sont les grands sujets de cette poésie, Xavier Garnier?
Oui, il y a une poésie érotique qui est magnifique. Il a vraiment dans le rapport aux femmes quelque chose qui est d'une extrême sensibilité. Et en même temps, il est capable de raconter des scènes très crues et très violentes de rapports sexuels. Il y a une poésie urbaine aussi, dont le grand texte « Trône de baïonnette » est une traversée de la ville d'Harare. On a aussi une poésie de l'évocation de sa vallée, le Lesapi, la vallée où il a passé son enfance. Ce sont aussi des très très beaux textes, ou une poésie paysagère d'une certaine façon. On pourrait continuer à décliner, il y a beaucoup de dimensions de cette poésie très diverse.
Une diversité d'influences aussi, puisqu'on voit le poète aller puiser son inspiration dans la mythologie grecque et occidentale. Que viennent faire Ulysse et Hécube dans la poésie zimbabwéenne, Pierre Leroux?
Il y a une volonté chez Mareshera de dire, si vous êtes un écrivain pour une nation particulière ou pour une race particulière, alors allez vous faire foutre. C'est une citation qu'on retrouve tout le temps et qui est parfois même un peu galvaudée quand on parle de Mareshera. Il a une formation universitaire en littérature anglaise. Il connaît extrêmement bien la littérature européenne et ses racines. On a des références très, très érudites à Ulysse ou à Hécube dans ses textes. C'est aussi une manière de se définir lui-même.
Vous vouliez ajouter quelque chose sur le tropisme européen de Dambudio Malechera, Xavier Garnier?
Je voulais juste compléter quelque chose sur ce caractère très international de sa poésie, où il va aller chercher dans la littérature russe, dans la littérature antique, etc., énormément de références, et en même temps, donc ce qui pourrait apparemment être un paradoxe, une poésie très située, où le contexte notamment de la guerre d'indépendance de Rhodésie est très présent. Il a besoin du monde entier pour parler d'un détail biographique très précis ou d'un contexte régional aussi très situé. Donc il fait converger une littérature mondiale pour dire quelque chose ici et maintenant.
Les traducteurs français du recueil de poésie Cimetière de l'esprit du Zimbabwéen Dambudzo Malechera, Chemin d'écriture avec Tirtan Karchanda. Bientôt 7h30, en temps universel, un nouveau point sur l'info africaine dans moins de 5 minutes. Et d'abord notre reportage culture avec un super-héros connu de tous, son costume bleu, sa cape rouge et son image, on ne peut plus américaine, du défenseur du camp du bien. Superman est à l'honneur d'une exposition à Angoulême dans le sud-ouest de la France, capitale de la bande dessinée. Sophie Torlotin.
Créé en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster, Superman est le premier super-héros de l'ère moderne. Et ce personnage reflète son époque dans une Amérique en crise économique et isolationniste, alors que se profile la Seconde Guerre mondiale.
Le personnage répond à une espèce d'angoisse, effectivement, de ses créateurs issus de l'immigration juive, mais aussi des gens qui sont pas issus d'un milieu très aisé.
Yann Graff, le commissaire de l'exposition.
Donc le personnage va affronter notamment dans les premiers épisodes des politiciens corrompus, des propriétaires de mines qui ne payent pas leurs ouvriers. Il prend à bras-le-corps en fait tous les problèmes que connaissent les grandes villes à la fin des années 30.
Ludique et immersive, cette exposition permet aux visiteurs de découvrir les mille et une vies et morts de Superman, héros très puissant venu de la planète Krypton et qui, appelé Clark Kent, devient journaliste et tombe amoureux de Lois Lane. Yann Graff met en lumière le travail d'une quarantaine d'auteurs, scénaristes et dessinateurs qui se sont succédés au cours de toutes ces décennies d'existence de Superman.
Dépassé les années 60, les gens qui reprennent Superman ont grandi avec cette icône. C'est quand même une incarnation de l'Amérique dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qui peut y avoir parfois de pire. Et vous avez des scénaristes comme Jeff Loeb et Joe Kelly, Joe Casey, qui au tournant des années 2000 ont fait une grande histoire sur Lex Luthor, l'ennemi de Superman qui devenait président. Et ça, c'est très intéressant d'avoir un héros qui affronte en fait le premier représentant de la nation dont il est issu.
C'est d'autant plus intéressant que ce Lex Luthor ressemble fort à Donald Trump. Il a fait fortune dans l'immobilier et la télé-réalité. Pour le scénariste australien Tom Taylor, le message de Superman est plus que jamais d'actualité.
C'est l'enfant d'une planète qui a disparu car ses dirigeants n'ont pas écouté les alertes des scientifiques. Ses parents ont dû prendre la décision difficile de le sauver en l'envoyant dans un vaisseau spatial pour un autre monde en espérant qu'il y soit accueilli. Donc Superman, c'est le demandeur d'asile par excellence. C'est l'individu le plus puissant de la planète Terre et il choisit d'utiliser son pouvoir pour aider les autres plutôt que dans son intérêt individuel. Donc je pense qu'il y a un message pour notre époque.
Superman, qui revient également au cinéma cette année, n'en a donc pas fini de résonner avec l'actualité.
Sophie Torlotin pour notre reportage culture, l'exposition Superman à Angoulême à voir jusqu'au 10 mars. Bienvenue sur RFI si vous nous rejoignez en ce dimanche matin. Le journal dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
À l'arrière de la voiture,
Clou.
Je regarde sérieusement la pluie. Est-ce que toi tu reconnais
Camille Yembe.
La silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire.
RFI Musique. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Akaki Popkadze, réalisateur franco-géorgien pour son premier long-métrage « Brûle le sang ». Conversation ponctuée par son attachement aux coutumes géorgiennes au Nouveau Testament, à Tarkovski et Robert Bresson, bref, un aller simple pour le 7e art.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10, temps universel, et en podcast sur RFI.fr.
Géopolitique.
Réélu président des États-Unis, Donald Trump réaffirmait en janvier dernier qu'il voulait reprendre le contrôle du canal de Panama, reliant les océans Atlantique et Pacifique à travers ce pays d'Amérique centrale auquel il appartient depuis 1999. Il a été construit par les Américains. La crise générée par Trump sur le Panama ne manquera pas d'avoir des implications importantes en Amérique latine. Des spécialistes nous livrent leur regard dans Géopolitique, proposé par Marie-France Chatin, tout à l'heure à 18h41. RFI.